Jardin d'Isis, une émission réalisée par Mariania Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, qu'on peut écouter sur internet www.radiofmplus.org. On peut retrouver le contenu des émissions sur les podcasts de Radio FM+. Et je remercie Yann Kerjouan à la technique. Je souhaitais pour ce Jardin d'Isis revenir sur un spectacle qui a eu lieu le 20 mars 2022 pendant le printemps des poètes, dans la salle communale de Saint-Maurice-de-Navacelles. Ce spectacle était intitulé « Les métamorphoses de l'éphémère ». Donc Saint-Maurice-de-Navacelles, c'est un lieu magique où le passage de la vis et des différentes périodes géologiques ont sculpté ce paysage époustouflant de beauté. Vous étiez invité à vous baigner dans la poésie de Mariania Salezada et des contes dits par Han Wang qui vont de l'imaginaire chinois rapporté par Chuang Tzu ou porté par la tradition orale de l'hypo aux idioties du célèbre Mola Nasreddin. Ces contes dits avec un grand talent par Han Wang et accompagnés au bendir et à la sitar chinoise. Instrument que je vous invite à découvrir dans l'enregistrement qui suit. Là où la poésie de Mariania Salezada, dans ce cadre du Printemps des Poètes 2022, entre dans des univers multiformes et aborde l'éphémère sous un regard à facettes, la fulgurance d'un reflet, la lumière, la surprise d'un chant d'oiseau, la beauté qui transperce, mais aussi le visage de la destruction. Nous croiserons un monde animalier foisonnant de hérons faisant nomadisme. Les contes aborderont le thème de la calomnie et le diable tentera même une brève apparition. Cette rencontre a été parrainée et rendue possible par la communauté de communes du Lodévois-Larzac avec la participation de la médiathèque Confluence de l'Odev et élaborée par l'association Les Champs du Possible. Osons le voyage.
La poésie nous emmène vers de fugaces rencontres. Bonjour, joyeux merle. Tu claironnes le printemps et ses floraux à Tours. Sais-tu qui je rencontrais l'autre jour? Certains de tes amis, toujours tous bien mis. Tel un piquet planté dans le pré était le héron cendré. Me dit, tiens, te voilà. Oui, c'est bien toi. Vois-tu, je t'attendais, là, au bord du sentier. J'ai quelque peu délaissé les œufs de ma couvée dans leur panier douillé au sein de la roselière. Toi, tu fonces vers la ville dans ta fière automobile. Ne crains d'outrager mon refuge tranquille sur ce replat de la vallée. Ces marécages dispersés tout au long de la Buège, mes héronaux j'élève. Mes amitiés au torcol fourmillé qui traînent sur mes syllabes. Tu t'étonnas de le croiser l'autre jour sur un câble juché. Lui confiera qu'il ne s'inquiète, qu'on a protégé ses semblables. Quant à la buse replète et ses miaulements perchés sur la branche du pin alourdie, qu'elle a tout à loisir des mulots pour se nourrir. Mais toi, sois bien prudente, tout près de veine t'attend le chevreuil galant, posté en sentinelle, en plein milieu de la chaussée. Craintif et curieux brocard, prends garde de ne heurter, en lisière de la forêt, étrange pour un rancard. Je rejoins le littoral, sur la route des vins me voici. Le vin sobre et le Saint-Maurice, puis le fleuve et ses fruitiers. Ensuite, ta belle et son rosé n'est pas le moment de s'arrêter. Écoute, lorsque t'en retourneras vers les étangs promenés, là-bas dans ta terre d'oc, n'oublie pas de saluer les nombreuses nichées de mes congénères, les portées. Je vais faire quelques emplettes, toi et tes rêveries sur la comète. Tu es un peu en retard, j'ai bien failli rater mon car.
Et cet étudiant ne pouvait pas rater son car, car en ce temps-là, il n'y avait pas encore d'autocar. Cet étudiant a donc marché, beaucoup, beaucoup marché, pour arriver à une ville en Chine réputée pour les grands maîtres de peinture. Il a appris à peindre les bambous, puis les rochers et les oiseaux. Et il s'est spécialisé sur les hérons. Il peignait des hérons, on pensait parfois qu'ils s'envolaient. Mais l'étudiant n'était pas riche. Et il avait plaisir à aller dans une auberge, chez un aubergiste généreux et amoureux des arts, qui acceptait que l'étudiant le paye en feuilles de papier de riz avec un héron dessus, plutôt qu'en monnaie. Les années ont passé et il fut le moment pour l'étudiant de rentrer chez lui. Il est allé voir l'aubergiste pour lui faire ses adieux. Sur une table, il a déroulé ses pinceaux, pris le plus gros, de l'encre et de l'eau. Dans une inspiration, il s'est concentré. Et c'est sur le mur que, dans l'expiration, il a peint un héron. Attends. Il a frappé 3 fois dans ses mains. L'aubergiste et l'assistante qui étaient là ont pu voir le héron sur le mur sortir son bec du mur, secouer sa tête ébouriffée de plumes, allonger son aile qui sortait elle aussi du mur, puis les deux s'envoler, arriver sur le sol, faire quelques pas de danse devant l'assistance étonnée, puis remonter et se coller dans le mur dans la même posture que l'étudiant l'avait peint. Et l'étudiant a dit à l'aubergiste : « Tu pourras toi-même frapper 3 fois dans tes mains. Mais attention, une seule fois par jour. » Et il est parti. À partir de ce jour, l'auberge n'a jamais désempli. Tout le monde attendait avec impatience le moment favori où enfin l'aubergiste allait frapper dans ses mains et que le miracle allait survenir. La rumeur est allée très loin, très loin, très loin. Et un jour parmi les jours est arrivé un puissant avec toute sa tribu. On raconte, aubergiste, que ici dans ton auberge, lorsque tu frappes 3 fois dans tes mains, un héron peint sur un mur, en effet, sort du mur. J'y crois pas, mais j'ai fait un très long voyage pour venir jusqu'ici et j'aimerais voir ça. Tu peux frapper dans tes mains ? L'assistant s'était étonné quand jamais personne n'avait osé faire comme ça. Tout le monde jubilait de ce moment d'attente, là, de suspension, où enfin l'aubergiste allait décider. Mais bon, l'aubergiste, content quand même de sa renommée, a frappé 3 fois dans ses mains et le héron a sorti son bec du mur, a ébouriffé sa tête de plumes, sorti une aile puis l'autre et a sauté par terre en voletant devant l'assistance. Quelques pas de danse, des personnes s'écartaient pour laisser le héron évoluer et puis il a volé encore un petit peu. Et il a fondu dans le mur, dans la même posture que l'étudiant l'avait peint. Encore ! Oh, mais toute l'assistance a dit : « Mais non, 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 l'étudiant a bien dit, une seule fois par jour, revenez demain. » J'habite très loin, encore ! Et comme l'aubergiste ne se pliait pas à la demande du gros puissant, le puissant lui-même. Et on a vu le héron sortir sa tête du mur, tomber sur son jabot, une aile tombée par terre. Il se traînait. Et à ce moment-là, la porte de l'auberge s'est ouverte et l'étudiant est arrivé. Le héron a suivi l'étudiant. Ils ont marché, tous les deux dans la neige. Et on ne les a plus jamais revus.
Il y avait un faisan sur la route de Sérignan. Le temps de trouver l'appareil photo. Chef rouge et collerette blanche. Il n'y eut plus de faisan sur la route de Sérignan. La terre, telle femme heureuse après la pluie, j'ai des amis oiseaux me tiennent force discours, de mes connaissances plus fidèles présents. Le chaloupé palpite sur la paroi du septum, allégresse innocente du chant, respiration de la mesure en l'âme épanouie, solitude crépusculaire. Le gazouillis repeuple, les oiseaux répandent au rythme du dehors, écho de notes purpurines sur velouté d'azur, gémissement de l'arbre, crissement de branches sous la poussière du vent, éblouissement de murmures, cadence de canopée, plainte de l'OTAN, éblouissement du chant, arachnée, épitaphe, fulgurance du son. Souffle sur la canopée, roule sur la chaussée une ondée de feuillets, un ruisseau murmurant sous les fenêtres ombrées de l'opéra. Au loin, l'arsenal. Mais ici, dans le lit du trottoir, les mains ocrées des géants se hâtent, palabres, se chamaillent en riant, en un gazouillis de fontaines. Un courant porté par le vent, un clapotis rassurant, qui rapporte aux dormeurs le langage des platanes au repos, la quiétude après la torpeur du jour. Où courent-elles toutes ces feuilles? Vers quel quai? Quel auban? Là, elles ne sont que champs. Dans l'immobilité des ténèbres, elles ont repris au jour le droit d'exister, de rire, courir et chanter.
Le même Chuang Tzu, donc, 4 siècles avant notre ère, nous raconte une histoire. C'est un maître charpentier-menuisier suivi de son apprenti-disciple à travers une grande forêt pour trouver les arbres à travailler. Il passe devant un arbre phénoménal. Il est si grand, que pour l'apprenti, c'est carrément l'arbre du dieu du sol. Ses branches sont tellement immenses, certaines montent jusqu'aux nuages, d'autres s'étalent si loin qu'on aurait pu en faire des pirogues et qu'elles faisaient de l'ombre pour 1000 bœufs. C'est ce que dit Chuang Tzu. Aussi, lorsque l'apprenti disciple passe devant cet arbre, il s'émerveille, l'admire, écoute le bourdonnement des insectes, regarde les oiseaux courir les uns après les autres, toute la vie qu'il y a dedans, soudain court derrière le maître, loin devant. « Maître, maître, depuis que j'ai mis ma hache à ton service, je n'ai jamais vu d'arbre aussi merveilleux. Prenons le temps de s'arrêter un instant et de le regarder. »
« Oh, regarde-le si tu veux, cet arbre est totalement inutile. Si on en fait des bateaux, rapidement ils prendront l'eau. Si on en fait des cercueils, ils pourriront. Et si on en fait des meubles, ils deviendront poussière. Non, non, cet arbre est profondément inutile et c'est de cette inutilité-là qu'il est devenu dans cet état. »
Ils se séparèrent, chacun rentra chez soi.
Et le maître, chez lui, le soir, se coucha et dormit. Et l'arbre du dieu du sol vint le visiter dans son rêve. Et lui dit, « Pourquoi faire des comparaisons ? Tu voudrais que je ressemble à tous ces arbres dits utiles, les fruitiers, les pêchers, amandiers, cerisiers, pommiers, poiriers. Leurs fruits sont à peine mûrs que leurs branches sont saccagées, abîmées, étirées. Ainsi font les hommes. Vois-tu, depuis mon plus jeune âge, j'ai visé l'inutilité et arrivé au seuil de ma vie, je l'ai obtenue. Et toi, tu es une créature. Moi, je suis aussi une créature. Comment une créature peut-elle juger une autre créature? Là aussi, si vous voulez, après, dans la... Le rapport de Chanceux, ensuite, il va raconter son rêve à son apprenti. Et si vous voulez, on en parlera après.
Je vais vous conter le plus joli des miracles, là où l'éphémère s'invita dans ma poésie. Moment enchanté que celui du premier rire de l'enfant, éclatant dans le lieu magique du souvenir. Cascade de notes joyeuses, pianotant un chant flûté. Ruissellement de joie inespérée, inattendue, jaillissement de perles irisées. Extase en constellation sur miroir de bonheur. Feu d'artifice d'innocence en étoile filante. Et la vague revient fulgurante, offrande spontanée, rebondissement de bonheur sur paroi d'indifférence, bas de jonglage en costume arlequin, lumière en fête sur le mur brisé de la vie, un festival de fleurs en corso fleuri, ricochet d'amour, rafraîchissante pluie d'été, respiration d'espoir, lavande papillon. Mon enfant, enjoué, la magie de ton rire, cristal ébloui pour Alice au pays des merveilles, voyage au cœur de la galaxie, spirale d'éphémère, le plus joyeux, le plus joli des miracles. Des mots éclats givrés, un sorbier constellé de pépins rubis, le brouillard endort les ombres. Des branches dépouillées, cassantes telles du cristal, les feuilles du platane abandonnées, craquantes comme du biscuit, le pas croque le sel sous un matin frisqué, le souffle embue les paroles exhalées, les brindilles se parent de poudre cotonneuse, les flaques s'assèchent sous la morsure du froid. Un sel irisé entalque les parois. Les sons jouent à cache-cache. La lumière fait écho. Le silence réverbère. Un filet d'eau serpente entre deux berges glacées. Le temps est coupant comme du verre. Les lèvres se fendillent de gerçures. Le froid tamponne les bruits. Décembre est là, tout frima, tout froid. J'enroule mon cœur auprès de toi. J'attends le printemps lila.
Dans le village de Nasreddin, c'est pas le printemps qu'ils attendaient, c'était la pluie. Ça faisait des semaines, des mois, plus d'une année qu'il n'avait pas plu. Aussi, tout le village était inquiété et voyez avec angoisse le ciel toujours sans nuages, la terre se desséchant davantage. Nasreddin a dit : j'ai la solution. Apportez-moi tous les restes d'eau que vous avez. Et ne posez aucune question. Alors, ils sont allés chercher leur peu d'eau dans des jarres, des casseroles.
Il a tout mis dans une grande bassine, il a pris sa djellaba, il a trempé sa djellaba dans la bassine, pris du savon, frotté, frotté, frotté. Et puis il a dit, je sais que vous êtes des cachotiers, que vous avez encore conservé de l'eau. Allez me chercher les réserves de vos réserves.
Ah non, ah non, ah non. Allez.
Ils sont tous allés chercher un tout petit peu d'eau, de tout petit peu d'eau. Il a tout mis, après avoir jeté la bassine d'eau savonneuse, il a mis toute l'eau dans la bassine. Il a rincé sa djellaba. Bon, cette fois-ci, il n'y aura qu'une eau de rinçage. Il a accroché sa djellaba. Et au moment où il mettait la deuxième pince à linge, tout le monde a pu voir les gros nuages noirs arriver. Et Nasreddin a dit, oui, à chaque fois que je lave ma djellaba, il pleut.
Ici, l'herbe est décolorée. Il est vrai que l'été a été aride. La sécheresse consume les prés. Le maïs ne parvient pas à lever. Un paysage ciel brûlé, ingratitude d'un labeur obstiné, télescopé par le changement climatique, révolte d'un chef d'Amazonie devant sa forêt enfumée. Plus cruel encore, s'il se peut que dans les fables de La Fontaine, les innocents sont percutés, anéantis. Un nuage pommelé a surplombé la plaine. Solitude de cumulus isolé, peine à retrouver ses comparses afin de faire jaillir l'ondée régénérante. Où sont-ils partis tous ces nuages en ronde autour de la terre? S'en sont-ils allés pleurer ailleurs? Justification d'un lapsus récurrent, la chaleur embrase la poussière. Je me languis de leurs sanglots. Où sont les rebords du monde? Paysage muet tombé par inadvertance dans le creux de l'histoire. Un ciel démesuré plane sur la plaine, volute de nuages perlés. Nature laisse reposer ses sols, dormance des taillis, futée transparente. L'homme s'assoupit pour un temps, le bouleau dalmatien du bosquet, la plaine inondée, happée par des naseaux en furie.
Mais rien ne dure, la sécheresse suit les inondations et la sécheresse. Et dans ce village qui pouvait être Saint-Maurice de Navacelles ou pas très loin, était une plaine un peu plus bas ou un peu plus haut. Et là, il y avait un champ qu'on disait maudit. Aussi, les paysans l'évitaient, personne ne marchait dessus et certains préféraient faire un long détour. Mais un paysan, dur au travail et sans le sou, s'est dit, bon, c'est adieu les rumeurs, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Et bon, il n'avait peut-être pas tort, aujourd'hui on pourrait le dire encore. Enfin, cessons de faire cas des rumeurs, j'achète ce champ et je le travaille. Il l'a acheté pour une poignée de pain, même pas, un petit sou. Il est arrivé sur le terrain et il a commencé à enlever les cailloux. Et au bout du champ, il a vu un feu. Et il savait qu'il n'en avait pas fait. Il s'est dirigé. Et c'était le diable au cœur du feu. Et là, il lui dit, paysan, je vois que tu travailles bien. J'ai envie de faire un marché avec toi. Je ne connais pas beaucoup l'agriculture. Et je te propose donc la moitié de la récolte pour toi et l'autre moitié pour moi. Le paysan rusé, audacieux, avec le diable, c'est quand même pas une mince affaire. D'accord, un contrat, mais moi j'aime bien que les choses soient claires, nettes et précises. Donc, tout ce qui est sous terre, c'est à moi, et tout ce qui est vers le ciel, c'est pour toi. Ça te va comme contrat ? marché conclu. Donc le paysan se planta des pommes de terre. La récolte venue, le diable revint, deux charrettes, les pommes de terre sur une charrette et les herbes sur l'autre charrette. Les deux vont au marché, le paysan vend toutes ses pommes de terre, le diable non seulement ne vend rien, mais est la risée de tous les villageois qui passent devant son étal. Le diable en furieux, m'ont dit « Attends, là, tu m'as bien eu cette fois-ci ». L'année prochaine, tu ne m'y reprends pas. L'année prochaine, c'est le contraire. Tout ce qui est sous terre, c'est pour moi. Et dans le ciel, c'est pour toi. Marché conclu, a dit le paysan. Il a semé du blé. Sur les deux charrettes, il a bien mis les épis de blé sur une charrette. Et la paille et les racines sur l'autre charrette. Le diable et le paysan vont tous deux jusqu'au marché. Le paysan a vendu tout son blé. Et le diable n'a pas vendu, et il fut une fois de plus la rusée des villageois qui passaient devant son étal. Il a été si furieux qu'il a piétiné de ses sabots. Il a fait un grand trou sous lui, et il a disparu. Et on ne l'a plus jamais revu, c'est pour ça que maintenant dans ce champ, qui pourrait être Saint-Maurice de Navacelles, eh bien, il n'y a plus de diable. D'ailleurs, moi, je pense qu'ici, il y a des personnes qui peuvent nous le certifier, n'est-ce pas ?
Je vous invite à me suivre le long de ma route. Platane, candélabre dénudé, l'ondulation sur un sillon de blé naissant, iris hérissé sur le rebord du chemin, telle est ma route. Tourterelle perchée au versant du cyprès, salutations au seuil des boulangeries. Ma route viennoiserie et pâtrée, ma route d'oratoire à l'égarement des prières, ma route fière traversée de pentes. Futée éteinte sous la procession des chenilles, coulée de neige et canines étincelantes, bâtisse cintrée, une brume moutonnante chatouille l'éveil de la colline poupine. La mort de la pinède, aurait-on décimé l'oiseau? Comment louer l'espoir sans l'allégresse de l'oiseau? Comment prôner la paix? Chacun se tient au bord du paysage. La mésange n'a plus d'habitat. Le vagabond, que possède-t-il encore? Ses souvenirs, peut-être. Un vague espoir accompagné, l'espace d'un instant pour quelque part. Mais qu'avons-nous fait de nos vies? À cultiver les égoïsmes? À nier l'oublier sous sa porte cochère? Lutter contre la GN, la bête atroce? Cesser de se réfugier derrière des mégalos de grandiloquentes déclarations. Que dire une poussée d'altruisme pour l'amener vers l'autre? Déjà un pas vers l'espoir. Si l'espoir n'est plus, alors toutes les dérives sont possibles. Même les arbres se retrouve inattendu dans le paysage. En gravissant les pentes de Péréguille, fière, surplombant l'orbe et ses flots émeraudes, circulade de tuiles arrondies et ocrées, j'ai retrouvé tapis mon sapin hérisson. Ô noble exilé, que viens-tu faire en ces monts? Es-tu fruit de hasard ou t'es-tu égaré? Loin de Guernica et du sang de l'Espagne, de la danse gitane et de ses sévillanes, toi, l'étranger, en ce parc de la pépinière, si le long de la luie, as-tu trouvé asile? Brèves aiguilles tendues aux frileux gars pensées, dérives de méridien sur lente migration, tu pousses vers le nord, en de neuves contrées, éloignée de tes paysages d'origine. T'étais acclimatée au cœur d'autres futaies, sous le vif ramage de la mésange bleue. Notre planète Terre, en pleine mutation, qu'aux palmes d'Amérique et cyprès de Lawson, du cèdre du Liban au pin noir d'Autriche, les jardins, les forêts, ouvrent leurs frontières.